Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. Martin est mon collègue depuis maintenant 15 ans.
Ouais. Ouais, 15 ans.
15 ans. On dirait pas,
c'est toujours une vie.
C'est quasiment une vie. Ouais. Ouais. On dirait pas toujours le teint frais, même si on est censé avoir l'âge de nos artères. Autant dire que la trentaine n'a pas laissé de traces sur nos visages poupons. Ça, on peut pas dire. Mais un peu toi, Martin.
Ouais, un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais 80 piges, mais bon, allons-y.
Donc, je connais Martin depuis belle lurette, et pour tout vous dire, c'est même moi qui l'ai accueilli à son premier jour à Eurosport. On aurait dit Rastignac qui montait la capitale. Il avait ses idéaux, son ambition, ses goûts aussi en matière culturelle. Alors, je sais pas si c'est le temps qui passe ou un lâchage de rampe, mais Martin, il a vraiment bien glissé là-dessus sur les goûts culturels.
Je sais de quoi tu vas parler, ok, j'ai compris.
Bah, tenez, ce matin, je suis passé le chercher chez lui car il se trouve que son logis se trouve sur mon chemin. Ce matin, donc, Martin monte dans ma voiture, écouteur dans les oreilles, et me dit « Ouf, j'étais en train de m'ambiancer sur du lame. »
C'est vrai.
Sans scier, sans trembler. Je le répète, j'étais en train de m'ambiancer sur du lame. J'ai pas relevé ou à peine, parce que maintenant, de toute façon, j'ai l'habitude, je le connais, je me dis « c'est un peu peine perdue ». Et je pense vraiment le combat, il est vraiment mais perdu totalement. Mais je suis quand même étonné de cette glissade ou de cet éclectisme jusque boutiste. D'autant que Martin est quelqu'un de sensible. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très sensible, enfin au niveau gastrique. Et j'ai jamais vu ça. Le moindre écart culinaire, Martin, et il a mal au bide pendant une nuit, pendant deux jours. C'est-à-dire qu'il est vraiment sensible à la flore intestinale.
Donc on raconte
c'est
tout dans cette
émission. Sur lui.
On raconte tout dans cette émission. Il y a
le
ventre
est hyper fragile. Et moi, ce que je regrette, c'est que les oreilles ne le soient pas autant.
D'accord, donc on raconte tout. Alors déjà, première chose. Non, effectivement, mais... tu m'attendais et j'écoutais l'âme, c'est vrai, mais j'écoutais une chanson particulière qui s'appelle Petite Sœur et qui, ouais, avec du recul, est pas si mal. En tout cas, voilà, c'est pas si mal. Petite Sœur, vous voyez très bien ce que c'est.
Ah non, pas du tout.
Si, si, vous voyez très bien ce que c'est. Pourquoi ? Parce que mon fils va avoir une petite sœur, voilà, donc j'annonce son exclusivité dans le FC Stream Team, et que du coup, ce matin, je lui ai fait écouter la chanson, voilà, juste pour lui dire, tu chanteras ça à ta petite sœur, et c'est vrai que j'ai un peu écouté l'âme. Mais pour ceux qui regarderont les vidéos, sur sport.fr, ils verront quel sweat je porte, et là, c'est indiscutable. Voilà. Là, c'est indiscutable.
Ouais, ça...
Quoi, bah non, mais c'est indiscutable.
Non, mais...
J'ai un petit sweat Jay-Z, voilà, et si tu me dis que Jay-Z...
le mec essaye de tout remettre, de changer l'axe de la discussion. Non, mais le vrai problème, c'est que tu vas sur Spotify, sur Deezer, tout ce que tu veux, tu tapes, je pense que Sœur, Sister, tu vas trouver 500 chansons qui sont bien.
Mais c'est une chanson de ma jeunesse, de mon adolescence. Mais le problème, c'est toi, comme petite sœur Lame, t'avais déjà 40 ans. Bah, moi, je suis goûté, je suis tombé dans la vague Lame. Je peux pas dire que j'écoute Lame tous les jours non plus. Je l'ai écouté ce matin une fois. Bon, c'est. Voilà.
Cela dit. Ah plus, alors là il va.
Quant à mes problèmes gastriques.
Tu parles de mes problèmes gastriques. Le problème c'est qu'à deux minutes de l'émission, on n'avait pas d'intro et il fallait trouver quelque chose. Donc moi j'ai foncé là-dessus. Et c'est vrai que Martin a cette particularité de pouvoir.
Il y retourne.
Non mais moi ça m'impressionne de pouvoir être hyper malade en peu de temps, mais il aime le. Bah c'est l'amour du risque, Martin. L'amour du risque culinaire. Quand même.
Dès qu'il y a un petit truc un peu daubé ou passé, c'est vrai que mon corps ne le supporte pas.
Moi c'est
Mais il évacue très bien.
Et moi c'est les piments. C'est-à-dire que les piments, j'adore ça,
ouais.
Mais vraiment, je pourrais en bouffer des tonnes.
Okay.
Et je peux dire qu'une minute après avoir ingurgité,
je veux pas savoir.
J'ai mal au bide comme pas possible. Ouais. Mais après, ça arrête, je maîtrise. Hein.
Ouais. Voilà. Donc voilà, on a démarré l'émission sur nos problèmes gastriques.
Alors oui, et attends, j'ai quelque chose à ajouter quand même, parce que la semaine dernière, j'ai fait une énorme erreur dans l'émission, et c'est important de faire des mea culpa.
C'est vrai. Alors ça concerne pas Neymar, Messi,
non.
Griezmann ou je sais pas quoi. Hein.
Et je m'en suis rendu compte parce que comme on est pro, il nous arrive de réécouter un peu ce qu'on dit, de la manière dont on lit, parce que l'idée c'est que les gens comprennent un peu là où on veut en venir. Et la semaine dernière, pendant l'intro, j'ai parlé d'un grand film du patrimoine français et j'ai parlé de Jacouille la Fripouille, donc ça très bien. Et après j'ai parlé de Geoffroy de Montmirail.
Ouais, c'est pas ok là.
Et là je me suis réécouté, je me dis, mais Maxime, qu'est-ce qui t'est arrivé? Godefroy de Montmirail.
Voilà.
Et là, je me suis inquiété, je m'en suis voulu toute la semaine, donc il fallait que je fasse cette mise au point aujourd'hui, parce que c'était une erreur non acceptable et j'étais à deux doigts de rendre ma démission.
Maintenant, c'est OK.
C'est OK.
C'est OK. Allez, on peut y aller. C'est OK, on y va. Trois sujets. Trois sujets, Maxime. Cette émission démarre très, très bien quand même. Hein. Entre les visiteurs et mes problèmes gastriques, on est pas mal.
Et là, il veut nous faire oublier ses soucis auditifs.
Non, mais écoutez, petite sœur, honnêtement, ça sent bon les années 90 et c'est pas si mal. Non, mais ça nous baigne dans une nostalgie, dans notre jeunesse.
Nostalgique de trucs qui étaient bien les années 90.
Voilà. Non, mais c'est parce que c'est emblématique.
Non, mais c'est emblématique. Non, mais c'est absolument pas emblématique des années 90.
L'âme, c'est emblématique
des années 90.
90-2000. Mais si, l'âme. Mais si, voilà. Bon, bref. Donc, trois sujets.
On est passé des années 90 à 2000. Donc
on peut y aller ou pas? On peut y aller?
Oui, allons-y. Trois sujets.
Voilà. Trois sujets dans ce FC Stream Team. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Le premier sujet sera consacré à Steve Mandanda. Très bon face au PAOK Salonique. Est-ce qu'il doit terminer la saison dans les buts de Marseille? C'est aussi simple que ça. Sachant que dimanche, il y a
PSGOM.
Voilà. Deuxième sujet, Maxime.
PSGOM acte 2. Après avoir parlé du gardien de l'Olympique de Marseille, on va se pencher sur les attaquants du Paris Saint-Germain et un en particulier, évidemment. Enfin, non, pas évidemment, parce que évidemment, ce serait Mbappé. On va parler de l'autre qui est arrivé en même temps, c'est Neymar. On va se poser la question suivante. Il reste sur trois matchs plutôt pas mal, notamment avec la sélection et le PSG. Bah, peut-on encore croire en Neymar? Peut-on retrouver le grand Neymar?
On terminera avec l'Olympique Lyonnais qui a flingué sa saison jeudi.
Peut-on croire en l'Olympique?
Alors, ça va être de plus en plus dur cette saison de croire en l'Olympique Lyonnais. On va se poser la question comment on en est arrivé là, c'est-à-dire dixième du championnat de France, éliminé en quart de finale de Coupe d'Europe, la saison flinguée par excellence. Et ça tombe bien parce qu'il y a juste quelques minutes, vient de s'achever la conférence de presse avec Peter Bosch, Vincent Ponceau et Jean-Michel Aulas. On vous dira un peu ce qu'on en a retenu. Et puis voilà, Maxime, est bien. Problème gastrique, Olympique Lyonnais, Mandanda, Neymar, on est bien. Je crois qu'on a abordé tout.
J'essaie de trouver le fil conducteur à tout ça. Je pense qu'en cherchant bien, on peut le trouver, mais,
Alors,
on ne va pas le chercher.
Non, on ne va pas le chercher. On rappelle juste
que
ces podcasts sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts. Mettez-nous des notes, des bonnes notes, s'il vous plaît, parce que les mauvaises, ça ne sert à rien. Ça fait plaisir à personne et puis on est dans un truc de bienveillance quand même, tu vois. Mettez-nous des commentaires aussi, ça nous fait plaisir sur l'Apple Store. Maxime, il m'en envoie de temps en temps le dimanche, il dit ah, regardez machin, ou sur Twitter, voilà. Et puis vous retrouvez les vidéos évidemment sur le site et vous verrez mon joli sweatshirt que j'ai ressorti, ça fait 10 ans que je l'ai, mais je suis très content de l'avoir, parce que je savais que Maxime allait m'attaquer sur Mego Music.
Ah non, mais pas non, mais je t'ai pas attaqué sur Jay-Z, je t'ai attaqué sur l'âme.
L'âme
de fond.
Allez, on y va.
Il y a quelques semaines, on avait fait nos paris de l'année, même un peu plus simple, quelques mois, et notamment, il y avait un pari qui disait qu'il y avait peut-être un club qui irait gagner une Coupe d'Europe cette année, et il y en a encore un qui est en lice, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié contre le PAOK Salonique en quart de finale de l'Europa League Conférence, donc la petite Coupe d'Europe, la nouvelle, et il s'est qualifié grâce notamment, alors voilà, les paillettes exceptionnelles, et au retour, un Steve Mandanda plutôt bon. Steve Mandanda qui a enchaîné trois matchs de suite. Steve Mandanda, on en reparlera même après, soutient la comparaison par rapport à Paul Lopez qui n'a plus joué donc depuis Saint-Etienne et cette petite boulette. La question, elle est simple, est-ce que Mandanda doit être titulaire dimanche face au Paris Saint-Germain?
Alors, moi, ma réponse, elle va être nette aussi. Je dirais non. Pourquoi? Parce que ça se passe bien comme ça. J'ai l'impression que Sampaoli a trouvé un équilibre entre Lopez et Mandanda, qui tous les deux, dans des compétitions différentes, finalement font une bonne saison. Alors, Sampaoli a de la chance que ça aille loin en Coupe d'Europe parce que du coup, Mandanda est moins frustré. Et puis parce qu'il participe aussi au résultat et à la belle saison. C'est-à-dire qu'il a un rôle actif. Et je pense que ça, c'est hyper important pour un gardien, hyper important pour Mandanda, 37 ans, ancien capitaine, capitaine en Coupe d'Europe, mais ancien, totem de cet Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Mais du coup, pourquoi changer? Paul Lopez, il a connu un moment difficile en début de saison. Il s'est plutôt imposé depuis. On est sur un équilibre des forces qui me semble efficace. Et c'est ça que recherche l'OM, l'efficacité. Donc pour moi, statu quo, Mandanda, les demi, peut-être la finale de Coupe d'Europe, et Paul Lopez, la fin de la saison en Ligue 1.
Alors, comme tu l'as dit, Mandanda a joué les trois derniers matchs, c'est-à-dire qu'il a même joué en championnat contre Montpellier, les deux matchs de Coupe d'Europe, et ça n'était pas arrivé depuis belle lurette, et ça a étonné un peu le monde, notamment que Lopez ne joue pas contre Montpellier. Sampoli ne s'est pas trop expliqué là-dessus, sans doute avait-il besoin de le faire souffler, mais j'avoue, je serais très très étonné que Mandanda ne soit pas, que Paul Lopez ne soit pas titulaire face au Paris Saint-Germain dimanche. Comme tu l'as dit, finalement ça fonctionne bien comme ça. Pour moi, Sampoli il a fait une erreur au début, c'est-à-dire qu'il a mis Paul Lopez sans qu'on comprenne bien pourquoi, hormis qu'il voulait un gardien qui participe beaucoup plus au jeu. Mais ce qui était difficile, c'était de déclasser Mandanda de manière, on va dire, assez directe et assez violente, parce que Mandanda, bah, c'est pas n'importe quel gardien à l'Olympique de Marseille. Comme tu l'as dit, quand il joue, il a le brassard. Donc c'était assez difficile, mais comme tu l'as dit aussi, ça fonctionne, tout simplement. Paul Lopez, au début, il n'a pas été formidable. Il a fait cette erreur à Saint-Etienne, mais entre les deux, on ne peut rien lui reprocher, tout comme on ne peut pas reprocher grand-chose à Mandanda quand il joue. Donc ça fonctionne. Et il y aurait le risque de rebattre les cartes à ce moment-là. Alors, pour le match contre le Paris Saint-Germain, ce serait potentiellement pas un problème, parce que bah, Mandanda, s'il joue dimanche, il va être très content, surmotivé, et ça ne va pas le fragiliser. Mais n'empêche que ça fragiliserait Paul Lopez. Et vu que ça fonctionne comme ça, autant continuer. Alors, on a souvent dit ici que la tournante de gardien, ce n'était pas l'idéal, sauf que... moi, je ne suis toujours pas convaincu, parce que je pense qu'un gardien peut jouer tous les matchs. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on compare par rapport au Paris Saint-Germain, au moins, si la forme n'a pas été au rendez-vous avec Sampaoli, au moins, dans le fond, il y avait une logique. C'est-à-dire que Mandanda les coupe, même s'il n'a pas joué l'Europa League au début. Et à Lopez de championnat, il y avait une césure très claire. Et on ne se demandait pas, c'est peut-être la première fois depuis la prise de pouvoir de Lopez, qu'on se dit « Ah, est-ce que Mandanda peut jouer ?» Donc en gros, tout est assez clair. Et Sampaoli aurait, pour moi, tout intérêt samedi lors de la conférence d'avant-match, de dire clairement les choses, parce qu'il ne faut pas laisser traîner de doute entre les gardiens, on le dit tout le temps, c'est un poste particulier, et ce serait assez dommage, surtout que, encore une fois, ça se passe bien, Mandanda a fini de bouder, on sait que Mandanda, bah, il peut être très marqué quand ça ne va pas dans son sens, donc là, on sent que ça va mieux.
Oui, d'ailleurs, Maxime, il y a une séquence qui prouve que en tout cas, Mandanda vit ça plutôt bien, c'est une séquence captée par les caméras de Canal+, où on voit Nasri et Mandanda qui parlent avec Sampaoli. Nasri qui demande comment ça va, il dit ouais, il me fait pas jouer, mais ça va tranquille. Et Sampaoli qui lui répond lui disant ouais, mais je lui ai appris à jouer, c'est
ouais,
ça.
Ouais, voilà, il est juste à côté donc.
Juste à côté. On sent qu'en tout cas, voilà, que ça se passe bien. Après, Mandanda a dit en conférence de presse avant le match contre Salonique que c'était pas toujours facile, évidemment, ce déclassement. Mais ce qui est certain et ce qui est sûr, c'est ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres sont pas nets. C'est-à-dire qu'ils dessinent une saison où Mandanda est presque plus efficace que Paul Lopez. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça a été un problème pour l'OM ? Est-ce qu'à un moment donné, l'OM a souffert d'avoir mis Paul Lopez plutôt que Mandanda, ou le contraire, Mandanda plutôt que Paul Lopez ? La réponse, hormis un début de saison, encore une fois, Paul Lopez, moyen, mais hormis ça, et franchement, ce n'était pas non plus flagrant, la réponse, elle est non. Donc, sans Paoli, sa gestion des gardiens est bonne. Donc, la gestion de Mandanda, la gestion de Paul Lopez, c'est ce qu'il fallait faire, puisque c'est ce qui a participé à faire que l'OM soit aujourd'hui deuxième et en demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc encore une fois, pour moi, ne changeons pas, restons comme on est. Évidemment, Mandanda était le meilleur joueur de l'OM. Et je pense que, je reviens aussi là-dessus, ça a été important pour lui parce qu'il a une part prépondérante. Et imaginez que l'OM gagne cette Coupe d'Europe, que Mandanda, capitaine en Coupe d'Europe, soulève ce trophée. Voilà, je pense que Mandanda, il se souviendra de cette dernière saison pour ça. Ce serait magnifique en plus que ça se termine là-dessus. Et au fond, tout le monde serait heureux.
Ouais, le paradoxe, c'est que l'OM a commencé très mal en Coupe d'Europe, en Europa League. Finalement, en étant reversé en Europa League Conférence, termine sur une belle aventure parce que quoi qu'il arrive, elle ira jusqu'à la demi-finale retour, donc le 5 mai, normalement.
Au pire, il manquera un match.
Il manquera un match. Au pire. Et Mandanda aura quand même vécu quelque chose, a priori, de plutôt sympa. Et les chiffres, justement, ils sont intéressants parce qu'on voit que... Alors, les deux joueurs n'ont pas le même échantillon. Lopez a joué 26 matchs, Mandanda 14. Mais 14, ça commence à être important. Et c'est vrai que le calibrage des adversaires n'est peut-être pas le même. On peut penser que Mandanda a parfois joué des matchs un peu plus simples, même si c'est de la Coupe d'Europe, puisque c'est la petite Coupe d'Europe, que Lopez. Mais les chiffres ne sont pas du tout en défaveur de Mandanda, notamment les tirs cadrés adverses. Lopez en prend 3, Mandanda en prend 2-6. Les buts encaissés, 0,71, Mandanda 1,09, Lopez. On peut juger qu'il a plus de matchs et qu'il y a sûrement des matchs parfois un peu plus compliqués pour dire qu'on est à peu près... Dans le même ratio. Tir arrêté 64% pour Lopez, c'est pas dingo. Mandanda 75%, on l'a vu notamment contre le PAOK. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé, et pour faire le lien avec ce que tu disais sur le fait que Sampoli rigole en disant « je t'ai appris à jouer », mais il y a quelque chose de vrai, c'est que Mandanda, On le rappelle, il a été un peu écarté du but parce que, non pas pour ses qualités sur la ligne, mais ce qu'il pouvait apporter sur le terrain. Et finalement, on a vu que le Mandanda s'est adapté. Moi, ça m'a fait très bizarre une fois de voir Mandanda à 40 mètres de son but, quasiment en hauteur de ses centraux, parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Et il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez dans les matchs, il arrose beaucoup plus de gelons, et souvent un gelon très précis, souvent pour Under justement. Et il a vraiment cherché à changer là-dessus. Mandanda ne s'est pas enfermé, on va dire, dans une posture de dire « il ne veut pas me faire jouer, donc je vais bouder ». Non, il s'est dit « j'ai 37 ans, c'est quasiment la fin, il y a des choses à jouer ». Et là, il est récompensé, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il peut jouer dimanche? Alors, Sampaoli, on peut toujours s'attendre à tout. Honnêtement, je serais très étonné, même si c'est Sampaoli.
Parce que ça matérialiserait quelque part que Mandanda a repris le dessus.
Ouais.
Parce que rater un match de Ligue 1 et deux matchs de Coupe d'Europe, bon, s'il joue le match le plus important de la fin de saison en Ligue 1, je pense que peut-être qu'il quittera pas la cage. Et je vois pas pourquoi Sampaoli ferait ça. Si c'est pour la boulette contre Saint-Etienne, non,
et
ça
autant, me paraît impossible. Autant moi, j'étais le premier, on en a parlé en début de saison, où je trouvais injuste la manière dont il était écarté, parce que, on peut dire ce qu'on veut, un gardien comme ça mérite plus d'égards, surtout s'il n'a pas, il n'est pas mauvais. Voilà. Maintenant, je juge que si on est juste avec Paul Lopez, on peut dire qu'il mérite de jouer aussi, parce qu'il est plutôt bon. Donc c'est vrai que ce serait, ce qui a été dur pour Mandanda serait dur pour Lopez, et je ne suis pas sûr que ce soit bien de faire ça à ses gardiens de but.
Alors que ce soit Mandanda ou Paul Lopez, ils retrouveront le Paris Saint-Germain donc pour le choc du week-end en Ligue 1. Et on a eu envie de parler de Neymar. Pourquoi Neymar? Neymar, c'est 5 buts et une passe décisive lors des deux derniers matchs. Lorient et Clermont, si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Après avoir été massacré par à peu près tout le monde suite à la saison compliquée qu'il a vécue et que le Paris Saint-Germain a vécu, notamment cette élimination face au Real Madrid, on s'est dit, on a à peu près tout lu, tout entendu sur Neymar. Il faut s'en séparer pour l'année prochaine, donc il faut le garder, construire avec lui. Doha ne veut plus de lui, Doha se lasse. Débarrassons-nous de lui. Est-ce que ces deux matchs montrent qu'il est sur la voie de la rédemption? Est-ce qu'on peut retrouver le grand Neymar chez ma chère Maxime Dupuis?
Déjà, la première chose, c'est qu'il n'a pas complètement baissé les bras. Donc ça, c'est plutôt à mettre à son crédit parce que, en effet, le match de Madrid, on a vu des PSG dans l'histoire qui, après une élimination européenne, terminaient très, très difficilement les saisons. Maintenant, comme d'habitude, il faut un peu garder de la mesure et raison garder parce que c'est un échantillon. Alors, on pourra ajouter même le match contre le Chili où il marque avec le Brésil. Il reste sur ses trois derniers matchs avec donc 6 buts. Avec tout le respect que j'ai pour Clermont, je le dis pour ma belle famille, que j'ai pour Lorient, pour les Bretons, tout simplement. Enfin, le Paris Saint-Germain ne s'est pas retrouvé contre deux équipes qui ferment le jeu, qui refusent d'y aller, avec des défenses de fer, voilà. Donc, très bien. Le mérite du PSG, et on pourrait même mettre Mbappé, même si lui, il n'a jamais baissé les bras, ça ne change rien, de Messi ou de Neymar, c'est d'avoir joué le coup à fond et d'avoir claqué autant de buts qu'il pouvait, 5 contre Lorient, 6 à Clermont, voilà. Maintenant, partir du principe que parce que Neymar a brillé à Clermont, 3 buts, une passe décisive, on a retrouvé le grand Neymar. Moi, je l'ai vu très bon contre Dijon il y a quelques années, mettre 4 buts. Ça n'a rien dit de la suite, voilà. Donc, je pense que le mal ou le problème est quand même un peu plus profond que ça et que Marseille, pour le coup, arrive à temps pour ça. Est-ce que même en cas de victoire contre l'OM et de super match de Neymar, on pourra partir du principe qu'il faut reconstruire avec lui? Moi, je suis toujours persuadé du contraire, mais en tout cas, au moins, il aura montré qu'il a toujours une forme d'envie et au moins de l'orgueil.
On est chez un joueur qui passionne le débat. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est tout noir ou tout blanc, on ne peut pas avoir de position médiane. Pourtant, pour moi, c'est aussi stupide de dire le grand Neymar est revenu après les matchs face à Clermont et Lorient, qu'il était aussi stupide de dire « débarrassons-nous après le match face au Real ou après la saison qu'il a vécue ». Pour moi, on doit être entre les deux. On doit se souvenir de plein de choses. Alors, oui, il a 30 ans, ok. Ce qui est un problème, il n'a pas marqué de but en Ligue des Champions cette année et il s'est de nouveau blessé, il a raté 20 matchs. Ça, pour moi, c'est un problème, effectivement. Est-ce à dire qu'il est terminé? Je reste persuadé que non, et je reste persuadé que le PSG restera une meilleure équipe avec lui que sans lui. Il est peut-être dans un rôle différent. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on retrouvera effectivement le Neymar du FC Barcelone ou qu'on a vu par séquence à Paris quand il driblait tout le monde.
Du FC Barcelone.
On l'a vu à Paris aussi quand même quelques fois, Maxime. Si, on l'a vu quand même à Paris quelques fois. Mais il est aussi dans un nouveau rôle. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça frotte trop avec le nouveau rôle de Messi aussi. Mais il faut se souvenir du Bayern. C'était il y a 12 mois, Maxime, le Bayern. Il faut se souvenir même du match. Je sais que c'est une position difficile à défendre de mon point de vue parce que tout le monde le déglingue aujourd'hui. Mais même, il faut se souvenir de son match face au Real. C'est lui qui lance Mbappé sur un pas finalement. Et le Real, c'est pas Retafé, c'est pas Lorient et c'est pas Clermont non plus. Je te vois noter tes petits arguments là, Maxime.
Mais pour me rappeler.
Non mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que il revenait de blessure à la malléole, qu'il ne faut pas le juger sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois qui ont suivi sa blessure. Le problème, tu vas me dire, c'est qu'il se blesse tout le temps.
Il revient tout le temps de blessure.
Oui, mais ça reste un joueur. Non, mais ça reste,
oui.
Ça reste un joueur exceptionnel. Et me dire que le Paris Saint-Germain sera meilleur sans lui l'an prochain,
bon.
Moi, je n'y crois pas. Reverra-t-on grand Neymar? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Neymar, Paris a besoin de ce Neymar.
On va partir du principe. On va imaginer que Mbappé s'en va cet été, ce qui est plausible. Est-ce que Neymar en tête de pont te fait gagner une Ligue des Champions?
Non, mais de toute façon, il faut recruter un attaquant. Puisque Messi, oui. Le problème de Messi et de Neymar, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans un rôle va de plus en plus se ressembler.
Mais ce sera la même chose l'année prochaine.
C'est-à-dire, en gros, pour lancer. Vision du jeu, etc. Même s'il a marqué 5 buts sur 2 derniers matchs. Mais bon, bref, ils sont moins dans l'élimination aujourd'hui. Et ils sont plus dans la construction, dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, dans le déséquilibre par la passe, plus que par le dribble et la percussion. Donc, il faudra trouver, pour compléter ça, évidemment, une pièce, une ou deux pièces, qui, elle, t'apporte par la profondeur, par la percussion, par le dribble, pour compléter ça. Si tu la trouves, c'est possible.
Oui, mais ça veut dire que tu vas jouer potentiellement avec Neymar, Messi, plus une autre pièce qui dribble, et tu n'as plus d'avant-centre non plus.
Non, mais si, il faut un avant-centre de ce profil.
Oui, mais il y aura du monde en trop, c'est ça que je veux dire. Donc, il va falloir choisir.
Ou même un finisseur. Même un finisseur. Si tu prends un pur finisseur avec Neymar et Messi derrière lui, excuse-moi, mais le mec, il va finir à 50 buts.
Ouais.
Ah si, Maxime.
Ah oui, mais non. Bon, en tout cas, moi, je suis... En fait, je pense que Neymar, il a un problème, c'est qu'il a renoncé à ce qu'il était venu chercher au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la grandeur et être l'unique, être à part. Voilà. Je pense qu'il a globalement renoncé. Et c'est terrible parce qu'on l'entend parler, notamment, il avait donné une interview, je crois, à DAZN en début d'année dernière. Où il explique, je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça et tout ce qui est autour de lui. Et ça, c'est tout à son crédit, parce qu'en effet, être Neymar, c'est pas être Duchemin, compagnie. Je pense qu'il y a toute une pression, tout un environnement qu'il a aussi choisi, qui fait que c'est pas une situation facile. Et peut-être qu'il n'est pas bâti et calibré pour supporter ça. Voilà. Donc je pense que déjà, c'est un problème, parce que potentiellement...
Et justement, si je rebondis là-dessus, s'il se met un peu en retrait, si... Bah, ça peut être
tu
une
peux
possibilité.
Pas, oui, mais tu peux pas accepter ça. Tu peux pas dire Messi va se mettre en retrait, Neymar va se mettre en retrait. À un moment, c'est des mecs qui sont payés en rapport à ce qu'ils doivent apporter et qu'on ne dise pas oui, mais Messi, il a 35 ans. Bah oui, mais moi, je m'en fiche, il est venu au PSG. S'il est venu au PSG pour se mettre en retrait, c'est un problème pour le Paris Saint-Germain et il faut changer le fusil d'épaule. Donc, c'est très compliqué avec Neymar parce que ce qu'il y a derrière Neymar aussi, on parlait des blessures. Parler aussi du reste, de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que jouer à Call of Duty jusqu'à 5h du matin, l'éveil de match, c'est pas possible. Et à un moment, si le PSG n'est pas capable au moins de changer ça, ça dépend finalement peut-être autant de Neymar que ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui dit, écoute Coco, il faut rentrer dans les cases, parce que justement, t'es pas exactement le même Neymar qu'on allait chercher. Ok, on te paye très cher. Et c'est...
Ils l'ont eu par séquence quand même, Maxime.
Non mais 5 ans, c'est pas assez.
Encore une fois, pour moi, rien n'est tout noir ni n'est tout blanc dans cette histoire-là. Évidemment qu'il a beaucoup plus déçu et que si aujourd'hui on fait un bilan de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est une déception
c'est
qui est claire et qui est nette. Malgré tout, il y a quand même des poches de matchs qui sont absolument exceptionnels.
Et comme tu dis, il y a le Final 8.
Voilà, mais ça, il ne faut pas l'effacer quand même.
Et même c'est il y a 2 ans.
Non, mais même ce qu'il fait à Madrid, ce qu'il fait contre le Bayern l'année dernière, sa réaction depuis l'élimination face à Madrid, même si je ne la place pas au même niveau, non, mais tout ça, ça reste quand même... Je veux dire, parce que c'est Neymar, il faudrait que ce soit soit exceptionnel, soit catastrophique.
Non, mais en fait, là, ce que je veux dire par là, et je valide complètement la position des supporters du PSG, quand ils sifflent Neymar et quand ils sifflent Messi, ils ne sifflent pas forcément le joueur. C'est 95% pour la direction, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils symbolisent aussi cet échec et cette politique bling-bling. Voilà, quand je vois, je parle de Ramos cette semaine dans une interview qui dit « je me vois bien rester 3 ans au PSG », bah oui, mais moi aussi, je me vois bien rester 3 ans au PSG à 12 millions. Ça, il n'y a pas de problème. À 12 matchs, 12 millions, je reste. C'est avec ça qu'il faut couper. Et je pense que c'est un signe, ça dit quelque chose de la culture du PSG, si le PSG se contente de ça. Voilà, tout simplement.
Donc pour toi, il faut couper direction, Neymar, Messi, et repartir sur un truc un peu plus...
Tu coupes quelque chose, voilà. Parce que si ce n'est pas la direction, il faut au moins que la direction montre qu'elle a du poids et qu'elle décide et qu'elle ne reste pas là-dedans. Et si ce n'est pas les joueurs, c'est notre direction pour plus cadrer les choses. Mais je pense que le plus simple aujourd'hui, non, ce n'est pas simple, parce que trouver quelqu'un qui voudra de Neymar à ses émoluments,
c'est une question.
C'est compliqué. Mais après, le PSG s'est mis tout seul dans cette situation-là, tout simplement. Comme avec Kurzawa et compagnie, évidemment, ce n'est pas la même échelle, mais ça dit quelque chose de comparable au niveau de la difficulté de trouver des portes de sortie.
On passe au troisième sujet, Maxime.
On passe au troisième sujet.
Allez, on passe au troisième sujet. Et à l'Olympique Lyonnais, Lyon, qui a été sorti de la Ligue Europa face à West Ham. Une défaite cinglante, sans appel. 0-3, hein, c'est ça.
Ouais.
Hein, 0-3 après un match nul à l'aller. C'est terrible pour Lyon, qui fondait tous ses espoirs de fin de saison sur une victoire, même pas une demi-finale, hein, une victoire en Ligue Europa. Jean-Michel Aulas l'avait annoncé dès le mois d'août, l'avait répété il y a quelques semaines. Il fallait gagner cette Ligue Europa pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ben voilà, Lyon bien embêté, puisque la Ligue Europa ne peut plus être gagnée, que le podium est à 10 points. Lyon est 10e. Maxime, la question elle est simple. Comment Lyon en est arrivé à signer potentiellement la pire saison? Depuis 30 ans.
Ouais, parce que comme tu l'as dit, avant l'arrivée de Pathé, des actionnaires, etc., c'est le Lyon qui parfois avait des bons moments, notamment avec Tigana, il me semble, qui termine deuxième du championnat ou troisième, je ne sais plus. Et ce Lyon qui était finalement une puissance moyenne. Ce qui est terrible, c'est que rien ne dessine sur Lyon une puissance moyenne. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est marrant parce qu'il y a une discussion entre un journaliste et Vincent Ponceau au sujet du confort des joueurs. Et il a confondu un peu le confort des joueurs, c'est-à-dire qu'on ne les mette pas devant leurs responsabilités et tout ce qu'il y a dans l'OL et qui fait que c'est un grand club, c'est-à-dire que ramener les joueurs en avion, un beau stade, des beaux équipements, voilà. Et donc, c'est ça l'OL, la réalité de l'OL, c'est un grand club structuré comme il faut. Et là, il y a un décalage absolu entre ce qu'on voit sur le terrain et... Le problème, c'est que là, la Ligue des Champions, c'est mort et enterré. La Ligue Europa, c'est encore possible. Ouais. C'était aussi le sens de la conférence de presse qu'ont donné Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Peter Bosz vendredi à la mi-journée. C'était un peu, pas sauf qui peut, mais mobilisation générale, car tout n'est pas gâché. Et on peut encore sauver les meubles. Il y a eu une approche positive, même si avec Aulas, les vieux réflexes ne sont jamais très loin. Ouais. On en parlera sûrement après. En fait, l'OL, le problème, c'est que ce qui se dessine, ce n'est pas le déclin de cette année. Il faut toujours regarder à plus long terme. On en parlait pour Neymar tout à l'heure, de ne pas se baser sur 3 matchs. Bah, prenez une frise du 21e siècle. C'est ça. Et d'un seul coup, ça descend. Et depuis 10 ans, globalement, ça descend. Alors, de temps en temps, il y a des coups d'éclat. Il y a des demi-finales de Coupe d'Europe. Jean-Michel Aulas peut parler du bilan de l'Olympique Lyonnais. Ah, il a même parlé des victoires des filles en Ligue des Champions, ça c'est assez formidable.
C'est
qu'il n'y avait aucun rapport.
La faiblesse des arguments, oui.
Voilà. L'institution, elle, globalement, marche bien, mais l'équipe masculine a un problème. Et ce qui est inquiétant, finalement, et on en a parlé régulièrement ici, c'est que c'est un peu... tout change, mais rien ne change. Et en fait, on a eu l'impression tout à l'heure que Jean-Michel Aulas a d'abord parlé aux supporters. On est triste aussi. On sait qu'économiquement, vous veniez pour voir un match, une qualification, vous n'avez pas été au niveau. On est triste. Je ne crois pas qu'il soit excusé, mais il a dit qu'on était là pour vous donner du bonheur. On n'a pas réussi. Et puis après, il a chargé un peu Juninho, en fait, tout simplement. Mais il a fait cause commune avec Vincent Ponceau, qui paraît beaucoup plus mesuré quand même. Et Peter Bosz en disant, en gros, le message, c'était dire, il reste 7 matchs, il ne faut pas gâcher. Globalement, ce qu'on a compris, c'est qu'en revanche, après,
ça peut tailler. Moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, ce qui s'est passé jeudi face à West Ham, c'est l'une des pires catastrophes pour l'Olympique Lyonnais depuis 20 ans. Au 21e siècle, c'est peut-être l'une des pires. Pourquoi ? Pour ses conséquences. Parce que ses conséquences, elles sont terribles. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on acte que Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Lyon n'a plus rien gagné depuis 10 ans. Pas un titre. On va fêter les 10 ans de la dernière victoire en Coupe de France. Dans ce laps de temps, alors oui, Jean-Michel Aulas l'a dit en conférence de presse, Paris a régné sur la France. Malgré tout, Bordeaux, Guingamp, Rennes, Lille, Strasbourg, Saint-Étienne et Monaco ont gagné des titres. en France. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Lyon, pour la première fois, n'avait pas joué de Coupe d'Europe. C'était la saison 2020-2021. Et que là, si la saison s'arrêtait là, il reste 7 matchs. Hein. Ce serait pareil, 10e place. Donc, on acte le fait qu'il y a... C'est même plus un déclassement, là. C'est un plongeon dans un trou noir qui est absolument abyssal. Alors, les responsabilités, évidemment, elles sont partagées entre Aulas, Ponceau, Juninho, les joueurs. Voilà, tout le monde prend sa part. Moi, ce qui me révolte le plus avec cet Olympique lyonnais, pour moi, ceux qui portent la plus grosse responsabilité dans cet échec-là, ce sont les joueurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs qui, tu l'as dit, vivent dans un confort, vivent dans... Qui a progressé à Lyon ? Qui a progressé ? Prenons Oussem Aouar, qui devait être le futur de l'équipe de France, qui n'est même plus le présent de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire qu'il a marqué 3 buts, je crois, au début de saison, son dernier au mois d'octobre. Il symbolise pour moi cet Olympique lyonnais-là, qui est incapable de se remettre en question, qui est incapable de progresser, qui a touché un sommet à un moment donné, qu'on lui a promis Monts et Merveilles. Alors peut-être, pourquoi il vit une saison compliquée ? Parce qu'il n'est pas parti au bon moment, oui, peut-être. Parce qu'on l'a vu trop gros, peut-être. Ouais. Et c'est cet Olympique lyonnais qu'on a peut-être vu trop gros, mais qui, dans les faits, et on l'a vu jeudi, est finalement une équipe très moyenne du championnat de France.
Et sur le constat décennal de Jean-Michel Aulas, on ne peut pas lui donner tort. Oui, le PSG domine. Comme tu as dit, il y a des clubs qui ont gagné des titres. Et j'ai envie de le dire, comment se fait-il que sur 10 ans, l'OL n'a pas pu réussir
Coupe de la Ligue, une Coupe de France.
Et même ce qu'a fait Monaco ou Lille. À quel moment, alors Monaco 2017, c'est sûrement un cas à part parce qu'on prend les joueurs, voilà quoi.
Oui, mais Lyon avait des moyens de sortir une génération absolument exceptionnelle.
Et pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est là aussi où il y a un problème. Et que Lyon ait ce déclin constant que refuse un peu Jean-Michel Aulas, bah, c'est un peu triste. Voilà, les questions sont à se poser autour de ça. Il y a quand même eu une cible pendant la conférence de presse de vendredi midi.
Ah, c'est clair. Ouais.
Alors, il y a eu Juninho, parce que Juninho, voilà, en gros, Peter Bosz est arrivé fin juin. On a essayé de faire ce qu'il fallait pour correspondre au recrutement. Sous-entendu, bah, il n'a pas fait le boulot, Juninho. Il est parti. Mais il faudrait rappeler quelque chose à Jean-Michel Aulas. L'échec Juninho, c'est aussi le sien. C'est-à-dire c'est quand même lui qui l'a choisi. C'est-à-dire que c'est du management. Il n'a pas recruté la bonne personne au bon endroit. Et puis après, pour moi, pour l'avoir dit plusieurs fois là, je pense qu'il lui a coupé les ailes ou les pattes très vite, dès que ça commençait à ne pas fonctionner avec Silvinho. Jean-Michel Aulas, qui disait avoir pris du recul, n'a pas pu s'empêcher. Peut-être que quelque chose qu'il a en lui de pas pouvoir prendre du recul avec l'OL. Voilà. Mais à un moment, ça dessert aussi le club. Et qu'aujourd'hui, l'OL en soit là, c'est aussi pour ça. Alors aujourd'hui, on excuse aussi Peter Bosz. Pourquoi ? Parce que bah, cette journée de la fin, ça ne sert à rien de changer d'entraîneur. Et les joueurs sont aussi la deuxième cible, comme tu l'as dit.
Ce sont eux qui
les a chargés. Voilà. C'est parti assez calmement. Et puis au fur et à mesure, on a senti qu'il les ciblait. Mais il a raison. Et Aouar, c'est exactement ça.
Paqueta, Maxime. Paqueta oui. qu'on estimait être l'un, si ce n'est peut-être, on s'est même dit à un moment. Hein,
oui, le meilleur joueur du championnat.
Le meilleur joueur du championnat. Aujourd'hui, Paqueta, il est complètement rentré dans le rang. Il s'est complètement affaissé. Mais ce n'est pas le seul. Dembélé, quand il arrivait à Lyon, il y avait des espérances
en fait,
folles autour de lui.
Il faudrait essayer de comprendre pourquoi les joueurs à Lyon n'arrivent pas à avoir cette forme de régularité, tout simplement. Pourquoi il n'y en a pas un qui va réussir sur une saison à faire... À un moment, je trouvais souvent à Lyon, c'était les années précédentes, que les entraîneurs, que ce soit Genesio ou Garcia, avaient tendance à un peu trop remuer les choses, à changer leur fusil d'épaule dès qu'il y a un mauvais résultat. Mais quand même, dès qu'il y a un joueur qui... On pourrait prendre la liste des bonnes périodes des joueurs, on a l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de lendemain. Et Aouar, c'est l'exemple parfait. Il y a 4 ans, quasiment à la même époque, un tout petit peu avant, le match à Marseille, Marseille-Lyon, il est énormissime. Je crois que Lyon gagne 3-2. Moi, je me demande si ce n'est pas déjà... Le présent de l'équipe de France.
Il va pas aller en Russie, quoi.
Voilà. Et si c'est pas maintenant, c'est pas grave, il sera à l'Euro. Et puis on arrive à la Coupe du Monde 2022. A priori, sauf vraiment grand miracle, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Donc il est en train aussi de passer à côté. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas su sûrement partir au bon moment. Et peut-être aussi qu'il y a aussi ce côté-là avec les joueurs de l'OL qu'on voit finalement souvent très très beau. Parce qu'on part du principe que. Ah, ils ont eu Benzema, ils ont sorti Ben Arfa. Ben Arfa, c'est un cas à part. De dire, il y a du talent. Et c'est vrai qu'il y a du talent dans cette académie-là. Mais on se rend compte aussi que quand ils partent, ou s'ils restent trop longtemps, bah, il y a un moment où c'est ni bon pour eux, ni bon pour l'Olympique Lyonnais. Et là, en l'occurrence, pour l'OL, c'est sûr que c'est une saison qui va se terminer sans doute en eau de boudin. Et même si l'OL venait accrocher une Coupe d'Europe, il manquerait quand même quelque chose.
Alors, au-delà des joueurs, pour moi, le problème aussi, c'est effectivement tout ce qui les entoure. La grande force de Lyon, ça a été un moment la stabilité absolue. Mmh. C'est-à-dire que, et avec des rôles hyper bien définis, président, directeur sportif, entraîneur. Là, tout est un petit peu parti en vrille à partir du moment où Florian Maurice et Bruno Genesio ont été mis de côté. Il y a eu des erreurs de fait. Hein. Bah, Juninho, tu as très bien dit, je pense que Ola, ça fait un petit coup pour se mettre les supporters dans la poche en se disant bah, « Là, je vous mets Juninho, c'est fantastique. Je me mets de votre côté. » Je pense que Juninho n'était pas prêt et je ne suis pas sûr qu'il en avait au fond de lui vraiment envie, qu'il était fait pour ce poste-là. Et puis tout ce qui a découlé derrière, c'est-à-dire Silvinho, Rudy Garcia, qui n'a jamais été adopté par le public et qui a eu, pareil, une expérience un peu compliquée à l'Olympique Lyonnais. Peter Bosz, qui n'arrive pas à faire le consensus lui aussi, alors avec les tribunes, mais aussi avec ses joueurs, il n'arrive pas à les mobiliser, en tout cas. Alors, Aulas reste, lui, constant, mais en dessous, on a une espèce de marmite qui boue et ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné dans les grandes années lyonnaises. Et je pense que c'est aussi un facteur. Il y a une déstabilisation de... Aulas a répété, l'institution, lui, c'est son mantra, l'institution. Ben, je pense qu'elle est fragilisée par ce manque de repères, ces directeurs sportifs qui vont et qui viennent, ces entraîneurs qui n'arrivent pas à imposer leurs pattes et ces joueurs qui sont incapables de se remettre en question et qui baignent dans une forme.
Moi, j'aimerais que Peter Bosz continue avec l'OL. Alors, peut-être que les supporters ne sont pas d'accord.
Que ça peut marcher sur une saison
Je voudrais le voir avec. Alors, parce que là, on nous sort des excuses. Le recrutement, ce n'était pas le sien, etc. Il n'a pas exactement eu ce qu'il voulait. Donc, on cherche Juninho. De toute façon, quand vous allez chercher un entraîneur comme ça, on en parlait à une échelle différente au PSG à l'époque, c'est-à-dire qu'Emery et compagnie, donnez-leur vraiment les armes dont ils ont besoin pour mettre au point leur philosophie. Alors sur le papier...
Le problème, c'est que ça va devenir intenable.
Ouais. Non, mais sur le papier, ça pouvait ressembler à ce qu'a l'OL finalement. Mmh. Dire, le jeu, enfin, vous regardez les joueurs, il y a pire comme effectif. Mais si ça ne marche pas, et de toute façon, il faudra faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui... Je pense que le problème il est sûrement plus sur le terrain que sur le banc. Donc moi, je donnerai à Bosz les pleins pouvoirs. Je lui dirai, écoute, tu veux qui ? Là, là, là. On va tenter ça. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et de toute façon, il y a un risque des deux côtés.
Oui, mais c'est intenable dans la mesure où... Bon, alors si on se qualifie pour aucune Coupe d'Europe, regarde déjà la colère des supporters.
Ouais. Ah non, mais ça, c'est certain.
Comment tu veux y remédier ? Et Jean-Michel Aulas, ces dernières années, a eu cette tendance-là. Et c'est pour moi aussi ce qui a précipité un peu le déclassement de l'OL. Il a eu tendance à un peu trop écouter ses tribunes.
Ah oui.
Il a trop écouté ses tribunes. Et Juninho, c'est ça. Genesio, c'est ça. Et je pense qu'en écoutant un peu trop ses tribunes, il s'est un peu éloigné de ce que lui pense dans son fort intérieur, ce qui a fait sa réussite. Et je pense que là, Bosz, ça va être intenable. Ça va être intenable parce que les heures d'hier répondent à ça aussi.
Mais si la saison se termine bien, je ne lui couperai pas l'herbe sous le pied, voilà, simplement. Mais c'est sûr que oui, en effet, si l'OL termine 10e, de toute manière, l'OL n'a pas le droit de terminer 10e avec un effectif comme ça, même si l'entraîneur juge que, même si ceci, même si cela. Bon, là, on est sur un déclin absolu et qui n'est pas normal. Il suffit de regarder qui est devant l'OL, c'est absolument pas normal.
Il y en a un qui décline pas, Maxime, c'est toi. Tu es encore brillant aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ça a mal démarré. Bon, on ne va pas se raconter d'histoire, mais raconter mes problèmes gastriques à la France entière, sachant qu'on fait les 20, 25, 30 000 écoutes. Donc là, il y a des gens, ils vont être dans leur bagnole, tranquille, ils vont se dire, je vais écouter une bonne analyse là, de ce qui s'est passé, Coupe d'Europe et tout. Ils tombent sur les problèmes gastriques de Martin Mosnier. Ça n'a pas été ton meilleur move.
Tu peux créer une forme de sympathie. C'est justement, c'est dur, je sais plus.
Pour dire que je suis humain comme tout le monde, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et tu vois, par exemple, c'est la veille de quel match on était ? La veille de France-Côte d'Ivoire.
Ouais.
J'étais pas très bien aussi.
J'étais pas bien, non.
Il était pas très bien. Et le matin, on s'envoie des petits messages pour aller au petit déjeuner. Il me dit, oh là là, j'étais pas bien encore hier soir.
Bah, j'ai vomi.
Et pourtant, on a mangé, ce soir-là, on a mangé, mais exactement la même chose
ouais.
Parce qu'on s'est retrouvé dans un restaurant de Marseille qui n'avait plus qu'un plat.
Voilà, exactement. Alors, donc, ça tombe bien, il se trouvait que c'est ce qu'on bouffe tout le temps, c'est-à-dire des burgers.
Et voilà, alors que j'en avais mangé un le midi et que je trouvais que deux, c'était beaucoup. Donc moi, le midi, ah oui, parce que le midi, il avait mangé sa petite sole. Il avait fait, et moi, je me suis dit, alors c'est toujours pareil, je vais peut-être prendre la dorade, et puis non, et hop, je prends le burger. Mais je ne savais pas que le soir, j'allais redémarrer sur un burger. Donc j'ai mangé deux burgers dans la même journée, Martin n'en a mangé qu'un, a priori, c'était la même fraîcheur le soir. Martin était malade, moi je me portais comme un chat.
Écoute, moi, c'est mes analyses qui sont les plus solides, toi c'est ton estomac. Écoute, chacun son truc, Maxime. Hein, chacun son truc.
Mes analyses sanguines.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci à Adrien dans le studio, merci à Quentin. Pour les visuels de l'émission. Si vous voulez voir les jolis visuels, parce qu'il est encore une fois mon joli sweatshirt. Allez voir les vidéos sur Eurosport.fr. Bravo si vous avez tenu jusqu'ici et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.